Eh bien, bonjour à tous. Nous allons continuer notre enseignement sur la lettre aux Hébreux. Je vous rappelle que, pour ma part, je pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite, mais ça regarde que moi. C'est pas une obligation pour vous de le croire, mais voilà pourquoi je vais souvent dire Paul a dit, Paul a dit. Voilà. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces moments, que tout ce que je vais dire puisse toucher le cœur de mes frères et sœurs et contribuer au rétablissement de toutes choses. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Je vais approcher un peu le micro. Voilà. Alors, on va lire Hébreux chapitre 7, versets 11 à 17. Voilà ce qui est écrit. « Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, Jésus, établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron ? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service à l'autel. Donc, il est en train de dire, celui que visent les passages cités, c'est-à-dire Jésus et Melchisédek, n'était pas de la tribu de Lévi. Donc, il ne pouvait pas faire le service à l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Amen. C'est pas une mince affaire. L'apôtre là est en train de dire des vérités absolument phénoménales. Voilà qu'il explique clairement. Paul applique au Seigneur Jésus-Christ les traits qui appartiennent à la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Il démontre aussi la supériorité de cette prêtrise sur celle d'Aaron, qui n'existe plus. Sauf, bon, elle n'existe plus, elle n'a plus lieu d'être. Mais il n'y a pas que ça. Le peuple d'Israël avait reçu une loi fondée sur la prêtrise, donc lévitique, de la tribu de Lévi. Et Paul dit clairement que cette prêtrise ne pouvait pas faire parvenir à la perfection. Il affirme clairement que cette loi de Moïse, gérée par la prêtrise d'Aaron, c'était pas le terme, c'était pas le but final des desseins de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Et ce qui le démontre, c'est qu'une autre sacrificature, une autre prêtrise, selon l'ordre de Melchisédek, était annoncée déjà dans l'Écriture au psaume 110. C'est quand même inouï que certains ne comprennent pas ça. Psaume 110, voilà ce qu'il est dit. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, à Jésus, « Assieds-toi à ma droite, c'est ce que Jésus a fait, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur. » Quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Voilà, ça c'est une prophétie pour dire que quand le Messie viendra, eh bien, ça sera autre chose, ça sera plus, n'est-ce pas, la prêtrise d'Aaron et toutes ces choses-là. Alors, David annonce que cette sacrificature, ce prêtre annoncé, allait venir, il l'annonce dans cette prophétie, au psaume 110, et donc la sacrificature qui était en place au temps de David devait être un jour remplacée, et elle l'est aujourd'hui. Et donc, il y aurait aussi un changement de loi, comme on a lu dans Hébreux 7, 12. Ça signifie que tout le système lévitique, dont la prêtrise selon l'ordre d'Aaron, tombe, et sa loi avec. Alors, on voit deux choses qui changent. Et il y a un immense contraste entre les deux genres de sacrificature, entre les deux genres de prêtrise. Un, il y a celui à l'égard duquel ces choses sont dites, c'est-à-dire Jésus. Jésus appartient à une tribu qui est étrangère au sacerdoce lévitique, on vient de le lire. L'Ancien Testament prophétise que le Messie devait sortir de la tribu de Juda. On trouve ça dans Genèse 49, je sais pas où le lire. Genèse 49, verset 10. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Pas Juda Iscariote, hein, la tribu de Juda, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, ça signifie l'envoyé, le pacifique, le Messie. Donc, le Messie vient de la tribu de Juda. C'est un lion, c'est le lion de Juda. D'accord? C'est clair? Le Messie a toujours été annoncé comme venant de la tribu de David, qui est de la tribu de Juda. On trouve dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je vais trouver rapidement. Ésaïe 11, 1, 5. Puis un rameau poussera de la souche de Isaïe. Donc Isaïe, c'était le père de David. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, de discernement, l'esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas des reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux sur la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, etc. C'est-à-dire, c'est Jésus, c'est le Messie qui est annoncé là, dans Ésaïe, au chapitre 11, verset 1-5. Hein, il sortira de la tribu d'Isaïe, c'est-à-dire, si vous regardez Matthieu 1-6, vous allez voir que Isaïe était le père de David, du roi David. Donc, Jésus est bel et bien descendant de la tribu de David, de la même que tribu de David, et David était de la tribu de Juda. Ça, c'est la première différence. La deuxième, le sacrificateur de l'ordre d'Aaron était établi selon une loi d'un commandement charnel, je m'explique. C'est-à-dire que c'était tout un système adapté à l'homme dans la chair. Tout était extérieur, tout était temporaire, les cérémonies, les ordonnances. En fait, c'était des figures, des images de ce qui allait venir avec le Messie. Et souvent, il faut bien l'avouer, ces cérémonies et ces ordonnances étaient vraiment un joug pesant pour l'homme et la femme pécheur, et c'était... L'homme est sans force devant la loi, on le sait. Alors les sacrificateurs se succédaient, ils exerçaient leur charge que durant leur vie ici-bas, mais au contraire, le Seigneur Jésus, à la ressemblance de Melchisédek, se lève comme un sacrificateur selon la puissance d'une vie impérissable. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreux 7. Jésus est entré dans la vie éternelle après avoir accompli la rédemption, hein, après être décédé sur la croix et ressuscité. Il s'est assis à la droite du Père, comme on a lu dans les prophéties. Il est entré dans une vie sur laquelle la mort n'a plus de puissance. C'est pourquoi ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Sa sacrificature est parfaite, elle est irremplaçable. En cela que c'est lui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et personne d'autre. Personne ne peut, à moins d'être mal enseigné ou d'avoir mal compris ou d'être orgueilleux, de prendre ce rôle-là, c'est pas possible. De quelle sorte de sacrificateur auriez-vous besoin puisque nous avons Jésus? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a, vous avez besoin de quelqu'un qui a la prêtrise de Melchisédek alors que c'est Jésus qui a cette prêtrise à perpétuité? Le sacrificateur parfait immortel qui a fait une œuvre que personne ne peut faire ou refaire, c'est Jésus. J'aime bien nos frères mormons, nos frères et sœurs mormons, je les aime bien, mais sur ce point précis, je peux pas être d'accord avec eux. C'est la raison qui m'empêche de m'associer à eux. Je les aime bien. Là, on va en recevoir, ils vont venir manger à la maison, je les aime beaucoup, ce sont nos frères. Vraiment, ils sont sauvés, ils croient comme nous, ils sont baptisés comme nous, ils manifestent les dons comme nous. C'est bien, mais ils se trompent au sujet des prêtrises d'Aaron et de Melchisédek. Ouais, moi, je peux pas m'associer, je peux pas, je suis déjà sorti d'un tas de trucs qui étaient faux, c'est pas pour rentrer dans quelque chose qui n'est pas biblique, ça c'est pas biblique. Leur histoire de prêtrise de d'Aaron et de Melchisédek, c'est encore une histoire de hiérarchie non, voilà, enfin bon. Dans la vie, il faut être curieux, il faut chercher si les autres ont tort ou raison, j'ai cherché. Je me suis approché d'eux, ils sont venus à la maison, ils nous ont enseigné pendant des semaines, on les a reçus, et puis on a vu, on a compris. On va lire Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Voilà ce qui est dit. À celui qui nous aime, donc Jésus, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Alors, Melchisédek fut le premier sacrificateur au service de Dieu. Ça, on a compris. Maintenant, Jésus est le dernier sacrificateur. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifice sanglant pour le pardon de nos péchés, c'est fait. Je crois que c'est 1 Pierre 2, 4, 7, mais je ne suis pas sûr. 1 Pierre 2, 4, 7, ou peut-être, non, je ne crois pas que c'est ça, mais enfin, il y a un passage qui nous dit donc que l'unique préoccupation d'un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est d'être au service de Dieu, c'est d'être absolument au service de Dieu. Si vous êtes médecin, c'est bien, c'est pour gagner votre vie, mais vous êtes au service de Dieu en premier. Vous êtes contrôleur aux impôts, c'est bien, c'est votre métier, mais vous êtes au service de Dieu en premier. Tout ce que vous faites, c'est pour Dieu que vous le faites. Vous êtes une dame au ménage qui fait son ménage, vous êtes au service de Dieu en premier. C'est ça, en premier. Jésus est le souverain sacrificateur d'un peuple de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et l'unique occupation d'un disciple de Jésus, c'est de servir Dieu. Tout le peuple d'Israël devait être des sacrificateurs. Tout le peuple, on va le dire parce que c'est quand même très intéressant de voir ça, c'est des choses qui sont rarement enseignées. C'est dans Exode 19, Exode 19, verset 6, voilà ce qui est dit. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, dans l'intention de Dieu, tout juif, tout israélite était sacrificateur avant la loi de Moïse. D'accord ? Et quand ils sont arrivés au mont Sinaï, quelque chose est arrivé, quelque chose de dramatique. On va lire dans Exode 1, non, Exode 32, 1 à 4. Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, et le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux, il discute même pas, hein, il est d'accord avec eux, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en métal fondu, il dira alors à Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Voilà, leur dieu, c'était donc le veau d'or. Et c'est à partir de là que le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu sont devenus deux groupes distincts. Quand Moïse descend de la montagne, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une orgie devant ce veau d'or. Exode 32, 18, voilà ce qu'il dit. Pas 18, si 18 ? Non. 25, on va dire. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel ? Qu'il vienne vers moi !» Tous les Israélites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnèrent Moïse, et 3000 hommes environ, parmi le peuple, mourut ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de vos fils et de vos frères, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui cette bénédiction. » C'est-à-dire que c'est là que les Lévites sont devenus les sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ? Le peuple a perdu sa sacrificature. Le peuple était un peuple de sacrificateurs. Il a perdu ça en péchant avec ce veau d'or. Et c'est seulement les Lévites qui ont obéi, n'est-ce pas, à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus les sacrificateurs, les gens qui étaient au service de Dieu. C'est terrible, non ? Alors, entre Dieu et les hommes, à partir de là, existe une classe intermédiaire, les prêtres. L'homme ne pouvait pas venir à Dieu directement. Il existait une classe intermédiaire, les prêtres, la prêtrise, les sacrificateurs. Toute église qui a des prêtres intermédiaires entre le peuple et Dieu est une fausse église. Parce que maintenant, depuis Jésus, cette parenthèse de la loi, de la sacrificature, etc., ça a été changé. Nous avons retrouvé ce que les Juifs ont perdu lors de l'épisode du veau d'or, et notre seule occupation, eh bien, c'est de servir Dieu, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'église sans la sacrificature universelle. Dans l'église aujourd'hui, la sacrificature n'est plus limitée à quelques personnes, dans la vraie Église, je dis, elle est devenue sacrificature universelle. La nation d'Israël a échoué dans l'histoire du veau d'or. L'Église ne peut pas échouer à son tour. La vraie Église. La nation d'Israël a échoué en ce qu'une distinction a été faite entre le peuple de Dieu et ses sacrificateurs, que le Seigneur, mon Dieu, use de grâce envers nous et qu'il n'y ait aucune séparation entre le peuple de Dieu et ses sacrificateurs dans l'Église aujourd'hui. Dans l'Église, les enfants de Dieu sont tous les sacrificateurs. Tous les enfants de Dieu sont sacrificateurs pour Dieu. Il doit y avoir autant de sacrificateurs que de frères et de sœurs. Tous doivent devenir, ils doivent tous venir à Dieu pour offrir des sacrifices spirituels et des sacrifices de louange. Tous doivent avoir part au service spirituel. Tous doivent venir à Dieu pour le servir. Une église qui ne permet pas l'accès direct et universel à Dieu n'est pas une église. Souvenez-vous bien, il n'y a pas d'église si la sacrificature n'est pas universelle. Nous sommes tous, nous sommes une nation, nous sommes un royaume de prêtres. L'église est un royaume de prêtres. La nation d'Israël a échoué avec cette histoire de veau d'or. Dieu s'est mis en colère et Moïse a... Enfin, je viens de vous le lire, hein. La nation d'Israël a échoué, l'Église ne doit pas échouer à son tour. Pendant les 2000 dernières années, la sacrificature ne s'est plus jamais étendue à tout le peuple de Dieu. 2000 ans d'histoire de l'Église nous montrent qu'il y a une séparation fréquente entre le peuple et les ministères. Maintes fois, une classe intermédiaire s'est introduite entre Dieu et son peuple. Et ça, c'est les Nicolaïtes dont je vous parle souvent, des gens qui veulent dominer le peuple. Il ne faut pas tolérer cette classe intermédiaire. Vous savez, nous ne pouvons pas tolérer la classe intermédiaire. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter une hiérarchie. Nous ne pouvons plus permettre à des sacrificateurs de se tenir entre Dieu et ses enfants. C'est fini ça. Sinon, on n'est pas biblique. Nous ne pouvons plus accepter une classe intermédiaire. Nous devons voir ce que c'est que l'Église. C'est l'endroit où tout enfant de Dieu est sacrificateur. Nous ne pouvons pas permettre qu'une ou plusieurs personnes monopolisent le service spirituel. Ils ne peuvent pas être les seuls à travers lesquels Dieu parle, ni les seuls par qui nous nous approchons de Dieu pour régler des problèmes spirituels. Une telle classe intermédiaire ne peut pas exister dans la véritable Église de Jésus-Christ. Il y a des ministres de la parole, des gens qui prêchent la parole, mais ce ne sont pas, c'est pas une hiérarchie, ce ne sont pas des gens qui sont au-dessus du peuple et qui dominent et qui manipulent. Notre controverse avec les dénominations, c'est pas uniquement une question de forme extérieure, mais il y a aussi un contenu intérieur. Aujourd'hui, il existe une hiérarchie dans les dénominations. Un groupe de personnes sert Dieu pendant que les autres sont simplement des membres de l'auditoire. C'est faux! Un groupe de personnes sert Dieu comme profession pendant que les autres, c'est des simples auditeurs, même s'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau, ils doivent s'approcher de Dieu au travers d'eux, au travers de ses ministres. Mais c'est quoi cette histoire? La pratique hiérarchique, mes frères et sœurs, est tolérée par beaucoup d'organismes chrétiens aujourd'hui, mais on ne peut pas accepter une classe intermédiaire. On ne peut pas mettre de côté la grâce qui a été accordée à l'Église dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas la négliger comme l'ont fait les Juif. Ah, mais. C'est-à-dire que tous peuvent servir Dieu, tous peuvent imposer des mains, tous peuvent faire, tous les chrétiens. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Alors, évidemment, il y a de l'ordre dans l'Église, on ne peut pas faire n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est sûr. Dans la communauté, nous avons un certain ordre que nous avons décidé entre nous et et les choses se passent très bien. Dans la communauté primitive, c'était pareil. Il y a eu quelques problèmes une fois avec des veuves, voilà, bon, ben, ils ont prié, ils ont réglé l'affaire. Et il faut arrêter avec ces histoires de dénomination. Et vous savez, s'il y a des gens qui se révoltent en disant « Oui, mais moi, on me laisse rien faire. » Ben, fous le camp ! On te laisse rien faire dans ton église, mais taille-toi ! Va servir Dieu ailleurs. Voilà. Mais encore faut-il être appelé. Voilà. Parce que c'est aussi ce que la Bible dit, il faut être appelé. Il faut être confirmé par Dieu, il faut être formé par Dieu. Voilà, c'est pas simple. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a construit et on ne peut pas la construire comme on veut. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs pour que ce que j'ai dit puisse les aider à voir clair où ils en sont et qu'ils puissent faire ta volonté écrite dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir.